Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans le quartier de La Martelle en recevant deux de ses représentants, sans compter moi-même qui habite dans ce coin. Dans cette émission, nous avons déjà déambulé du côté des Arceaux, de Saint-Roch-et-Cusson, de Boutonnet et plusieurs fois de Mosson-la-Paillade. Dans les mois qui viennent, nous irons aussi flâner dans d'autres quartiers pour sentir les pulsations particulières de la ville. J'accueille donc deux porte-paroles du comité des quartiers La Martelle, Les Bouisses, Montpellier Village. Donc La Martelle, Les Bouisses, Montpellier Village, on va présenter ça. Guy Salager et Christine Gasque, merci d'avoir répondu à mon invitation. Guy Salager, vous vivez à La Martelle depuis 25 ans. Depuis une dizaine d'années, vous êtes engagé au sein du comité de quartier, vous en êtes le vice-président. Christine Gasque, vous avez aussi une grande connaissance de ce quartier puisque vous y habitez depuis 28 ans et depuis 3 ans, vous êtes la très active, l'indispensable secrétaire de ce comité. Je vous ai invité notamment parce que vous organisez, nous verrons ça en détail, les 27 et 28 juin, dans le parc de Font-Colombe, rue de Châteaubon, un rendez-vous festif, culturel, de balades et d'animations diverses. Son nom, le premier festival agri-party, party IE, des Bouisses, du nom de l'avenue qui traverse de part en part le quartier du nord au sud. Avant que nous vous parliez de votre quartier, un petit regard d'ensemble. Racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Christine Gasque, quels sont les lieux ou le lieu à Montpellier que vous appréciez particulièrement et pourquoi ?
Oui, bonjour à tous. Alors, je vais rester dans le quartier de La Martelle et vous parler du parc de Font-Colombe, parc méconnu des Montpelliérains, qui se situe à l'ouest de notre quartier et qui présente une folie montpelliéraine de Châteaubon, en fait. Et ce parc est devenu public il y a quelques années, mais reste encore méconnu de la plupart d'entre nous.
Enfin, encore que le Covid a permis à certains de le découvrir. Guy Salager, même question, le lieu que vous recommandez à vos amis de passage, par exemple.
À Montpellier, en général, j'aime beaucoup les marchés. Les marchés ouverts, en particulier celui des Arceaux, où je me rends de manière régulière. Mais j'apprécie aussi l'ambiance des marchés plus anciens, comme le marché du haut, comme on dit, et le marché du bas. Je fais allusion au Hall Castellane et au Hall Lessac, en fait.
Très bien. Les marchés, c'est un bon moyen de découvrir une ville, à part les produits qui y sont proposés. Alors, venons-en à ce quartier. On va essayer de le situer pour les auditeurs et auditrices qui ne le connaîtraient pas. C'est très vaste. Alors, ça s'inscrit dans un espèce de quadrilatère qui est délimité au nord par l'avenue de la Liberté, à l'est par l'avenue de la Rocambole, au sud par la route de la Vérune, avec le rond-point Paul Fajon qui jouxte Montpellier Village. Et enfin, à l'ouest, par la rue de Bionne, elle longe l'avenue Léon Jouot qui démarre rond-point Maurice Genevaux, plus connu sous le nom de rond-point de Paulette. Chers auditeurs, chères auditrices, êtes-vous un peu perdus? Pour une fois, on regrette de ne pas être à la télé pour montrer la carte. En tout cas, voyons comment ce quartier se présente. Guy Salager, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu des principales caractéristiques de ce quartier? Quel type d'habitat, de population?
Alors, c'est un quartier qui est assez vaste géographiquement. Vous l'avez dit, il est encadré par des boulevards ou des avenues sur lesquelles on circule. Il est un peu fermé, il est très méconnu des Montpelliérains. Il est à l'ouest de Montpellier. Il s'y passe peu de choses. C'est un quartier qui est quand même relativement dortoir, comme on a l'habitude de dire. En fait, 8-9 000 habitants y vivent. Très peu de structures commerciales, des animations qui se cherchent. Et justement, au titre du comité de quartier, nous, on essaie de développer autre chose, de donner un peu de sens à l'habitat. et de faire profiter les habitants des quelques animations que nous concrétisons. Alors des choses assez classiques, des vides greniers, des lotos. Et là, a surgi récemment l'idée d'un agri-parc qui nous a très vite donné envie
de faire
quelque chose de plus costaud, de
On
plus
va
ambitieux.
En parler dans le détail. Voilà. Donc c'est un quartier, voilà, un peu... Voilà, un peu, donc il cherche un peu peut-être son identité ou voilà où ça.
C'est un quartier périurbain de périphérie de grandes villes, de métropoles qui mérite qu'on le découvre par certains aspects. Alors la ligne 5 qui va bientôt arriver, qui va nous permettre aussi d'insuffler un peu plus de dynamique. Et puis ce fameux agri-parc dont on va parler.
Très bien. Alors il y a toute une partie bâtie, une partie peu bâtie en gros, hein. La partie ouest est peu bâtie, et puis la partie est, bien entendu, est plus dense, avec à la fois des maisons et du logement collectif.
Oui, du vertical et de l'horizontal. C'est un quartier moyen en termes sociologiques. Hein. On n'a pas de gros soucis d'habitat ou de difficultés.
Ou de coexistence
entre les gens. Hein.
Très bien. Alors, vous l'avez évoqué, à partir du 20 décembre, le quartier va être desservi par la ligne 5 du tram. Le 3 mars dernier, vous avez rencontré Julie Fraîche, vice-présidente de la métropole déléguée aux transports et mobilités actives. C'est un titre officiel. Bon, elle s'occupe des déplacements, pour faire plus simple. Quels sont les points saillants de cet échange, notamment ceux qui suscitent votre satisfaction à ce jour et qui engendrent aussi votre inquiétude, même votre vigilance?
En termes de satisfaction, il est évident qu'une ligne de tram, ça va pouvoir permettre de la circulation plus apaisée, comme on dit en ce moment, c'est le terme convenu. Oui. Pour rejoindre le centre-ville, ça va être quand même un argument majeur pour arriver à donner une dynamique de mobilité dans le quartier, c'est sûr. En termes de satisfaction aussi, on va voir enfin, après la fin des travaux qui doit se situer courant de l'été, on imagine, la reprise de circulation sur la route de la Vérune qui va être remise à double sens.
Elle est dans le sens la Vérune-Montpellier.
Mais elle sera aussi...
Voilà. D'où un déport de circulation par des voies qui ne sont pas faites pour ça. Et qui ont créé, bien sûr,
des quelques perturbations qui, on l'espère, seront résolues. On est très vigilant au niveau du comité de quartier sur tous ces aspects, en particulier sur la signalétique, de façon à ce qu'il y ait des endroits protégés, on va dire, ne serait-ce que pour la circulation piétonne et cycliste.
Oui, parce que bon, la confirmation par l'élu que la liaison La Vérune-Montpellier et Montpellier-La Vérune se ferait à double sens suscite parfois des interrogations au vu de la configuration. On peut dire, parce qu'il va y avoir une voie cycliste d'un côté, une voie cycliste de l'autre, les deux lignes, les deux voies de tram, bien entendu, et deux voies voitures, mais dans un empiétement délibérément faible. Pour éviter
la vitesse des automobiles. Voilà. Pour faire en sorte que les voitures roulent lentement et respectent le fameux 30 km/h qui est normalement celui qui est inscrit dans le code de la route Montpellier-Rhin.
Très bien. Alors, deuxième grosse infrastructure, à plus longue échéance, le contournement ouest de Montpellier. Alors, ça suscite encore beaucoup de questions d'interpellations et d'interrogations. On va l'aborder aussi sous l'angle du quartier. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe, bon, et quels sont les points de vigilance que vous avez mis en avant et quelles initiatives avez-vous prises pour les traiter?
Alors en termes de circulation, on est très attentif au carrefour des Grèzes. Le carrefour des Grèzes, c'est un carrefour qui s'articule entre Celle-Neuve et le quartier de la Martelle, situé à hauteur du supermarché Lidl et de la cave coopérative de Saint-Georges-d'Or.
Ouais, ça, les gens voient aussi comme ça, du coup.
Le feu qui protège ce carrefour quand on arrive du nord de Montpellier est le premier feu que l'on rencontre sur l'autoroute quand on arrive de Clermont-Ferrand. Donc c'est vraiment la frontière première pour l'accès à Montpellier. Il se trouve que ce carrefour est très dangereux. Il y a une dizaine de voies qui sont adjacentes et qui convergent. Et notre vision, c'est que ce carrefour soit modifié de façon à ce qu'il n'absorbe plus que du trafic local et qu'on n'ait plus la vision de véhicules qui viennent d'ailleurs et qui se perdent dans la circulation montpelliéraine. Il y a ce premier plan. Et puis, de notre côté aussi, on est très vigilant aussi à la qualité de l'air et à la pollution. Parce qu'on voit bien que le trafic de l'avenue de la Liberté engendre des nuisances sur la santé des gens qui vivent alentour.
Alors, ça vous a conduit, comité de quartier, à lancer une initiative assez originale, novatrice. Hein, Christine Gaz, vous nous en parlez là. Comment vous avez abordé cette problématique de la qualité de l'air?
Alors, nous avons abordé cette problématique en rencontrant des chercheurs du CNRS qui nous ont proposé d'installer des capteurs d'air dans différents lieux de notre quartier pour pouvoir mesurer effectivement la pollution de l'air. Cette étude est en cours, la pose des capteurs a lieu jusqu'à la fin du mois de juin, et à partir de là, les chercheurs vont nous faire part des résultats d'ici la fin de l'été, début de l'automne.
Donc, c'est un instrument de mesure qui va donner un état de la situation et, j'imagine, nourrir votre argumentaire pour que cette problématique de gestion du carrefour des Grèzes, comme Guy Salagé l'a décrite, puisse être complètement prise en compte en termes, je dirais, de l'environnement dans les deux sens du mot et des habitants de proximité qui sont touchés dans la partie nord du quartier, donc de la Martelle. C'est ça.
C'est cela, et nous ferons des mesures à plusieurs échéances de la construction du COM, certainement pendant et après les travaux, ce qui nous permettra d'avoir un suivi de la qualité de l'air sur le quartier.
Très bien. Donc ça, alors j'imagine qu'un certain nombre de bénévoles qui ont participé à cette opération pour installer des capteurs chez eux, notamment. Voilà, donc
tout à fait. Nous avons fait un appel aux personnes du comité de telle sorte à leur demander l'autorisation d'installer les capteurs sur leur terrain, de telle sorte à ce qu'ils soient protégés des incivilités éventuelles.
Très bien. Alors, on va aborder d'une manière plus large les grands choix en matière d'urbanisme et d'aménagement, qui concernent bien sûr à peu près toute la ville. Comment les analysez-vous, notamment avec les orientations que le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, a fixées à peu près complètement, même si la version définitive de ce plan sera votée dans quelques jours?
Alors, dans le cadre du PLU, on enregistre une satisfaction, c'est que pour ce qui concerne le périmètre de l'agri-parc, qui, je le rappelle, est quand même une surface au-delà de 100 hectares, hein, 110, 120 hectares, 10 hectares, un peu moins de 10 hectares, seront dévolus à la construction, c'est-à-dire environ 500, 600 logements probables qui seraient implantés sur cette surface. Sachant qu'à l'origine, dans les idées précédentes, il était question de 40 hectares. Donc on a réduit...
À la baisse, alors, c'était revu à la baisse.
Au quart, la possibilité de construction. En termes de hauteur, on a bataillé par pas mal d'observations dans le cadre du PLU pour que soit respecté ce qui avait été décidé dans une convention citoyenne il y a un peu plus de 2 ans, où il était prévu de ne pas dépasser le R+2. Au départ, on nous a annoncé du R+3. Et puis finalement, apparemment, dans les dernières orientations du PLU, on est revenu à R+2. Donc on est tout à fait dans le cadre de la convention citoyenne.
Si tout va bien, vous avez obtenu gain de cause sur ces points-là.
La
surface dévolue à la construction de logements et la hauteur maximum des 10 logements.
Tout à fait.
D'accord. Alors, j'imagine d'autres points qui méritent attention et qui mobilisent le comité de quartier. En préparant cette émission, on en avait noté deux. Un qui concerne la zone commerciale Eurydice. Alors, j'explique que c'est Eurydice, c'est pas très loin de ce dont on a parlé. Ce sont les arcades de la rue des Croix de Rosier, là, près du carrefour des Grèzes notamment. Quel est le souci, là, Guy Salagé?
Il y a un souci d'incivilité chronique, on va dire, qui est pris en compte par les pouvoirs publics, hein, puisqu'il y a pas mal de descentes de police et de surveillance de ce lieu, mais qui mériterait un peu plus de vigilance, car c'est l'objet de pas mal de choses qui ne devraient pas se produire. Des commerces qui vendent des produits illicites, de la violence, des coups de feu, des choses qui sont quand même désagréables dans un quartier.
Sans compter les gens qui se garent en double fil, rendant difficile la circulation sur la
malgré le nombreux procès-verbaux qui sont dressés, il y a encore des gens qui continuent à avoir des attitudes qui ne sont pas logiques dans une vie normale d'un quartier.
Donc vous allez continuer à interpeller les pouvoirs publics.
On est en relation avec, notamment avec M. Côte, hein,
qui est l'adjoint délégué à la tranquillité publique.
Qui est vraiment sur le sujet. On a un autre sujet aussi qui se trouve rue du Mazet, c'est-à-dire pas très loin de Châteaubon, où là, des logements insalubres continuent à attirer des gens qui n'ont pas obligatoirement une conduite tout à fait en correspondance avec ce qu'on souhaite dans un quartier normal d'une grande ville.
Donc, très bien. Alors, on va revenir, le sujet est évoqué, mais c'est bien sûr un aspect majeur de notre échange sur l'Agri-Parc des Bouises. Dans l'Agri-Parc, bon, c'est la dénomination qui a été donnée sur cet ensemble, qui a été présenté par le maire, Michael Delafosse, comme né de la volonté de rééquilibrer la part consacrée aux espaces naturels dans la métropole. Il y a d'autres opérations, notamment au nord, hein, avec le Grand Parc du côté de Zoo. En ce qui concerne le vôtre, l'Agri-Parc des Bouises, il doit comporter des espaces agricoles, des espaces naturels sur une centaine d'hectares, ainsi que de logements, vous l'avez dit. Alors, où en est-on aujourd'hui et sur quel point s'exerce la légitime vigilance des habitants du quartier par l'entremise de leur comité de quartier ?
On a le sentiment d'être un peu en stand-by pour ce projet. En fait, il y a eu quelques petites expériences d'implantation de végétation, mais très modeste, on va dire. Ouverture quand même d'un chemin qui était un peu en déshérence, le chemin du Mazet, qui a été réouvert à la circulation piétonne, hein, mais dans des conditions encore précaires, il n'est pas complètement abouti. En dehors de ça, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est voir arriver des expériences agricoles différentes, un peu plus poussées, et puis surtout qu'on puisse fréquenter les lieux de manière un peu plus organisée, on va dire un peu moins sauvage. Dans l'immédiat, les cheminements se créent eux-mêmes par le biais des promeneurs qui, avec leurs chiens ou avec leurs petites poussettes, se promènent dans la zone sans trop savoir où ils sont. Il n'y a pas de cheminement organisé. Donc tout ça, on aimerait que ça surgisse.
Et pas d'aménagement. Il y a quelques aménagements des jeux d'enfants et guère plus. S'il y a l'idée d'en faire un usage plus diversifié, d'animation, d'activités diverses, sportives ou ludiques, ça suppose des aménagements dont vous ne savez rien aujourd'hui.
Alors, on a participé à pas mal de réunions hein, où le projet s'inscrivait dans une dynamique. Il faut quand même être lucide. Hein. L'objectif final, c'est 2035, donc on a le temps. Mais on est un peu sur notre fin. Voilà. On aimerait avoir un peu plus de détails sur la façon dont la chronologie va évoluer sur les mois et les petites années à venir.
Alors, peut-être la prochaine campagne municipale va vous apporter les lumières que vous espérez, hein, puisque les élections municipales auront lieu en mars prochain. Hein,
On en est convaincu. Et l'inauguration de la ligne 5, quand elle va partir du fameux rond-point de chez Paulette dont vous avez parlé tout à l'heure, première station, Agri-Parc des Bouises.
Non,
la première station de tram portera le nom de l'Agri-Parc des Bouises. Donc on suppose que derrière cette appellation, on trouvera l'émergence du parc.
Alors, une précision, parce que moi, je sais qu'elle a été évoquée, y compris dans mon quartier, mon petit quartier, la question du stationnement. Là, est-ce qu'il y a, dites-nous un peu ce qui est prévu pour que ce qu'on peut espérer d'afflux, là, pour que les Montpellierains qui ne connaissent pas le parc, nous disait Christine, le fréquentent pour éviter que une mauvaise gestion, je dirais, de l'afflux de véhicules.
Ah ben, un grand parking immense est prévu avec plusieurs centaines de places à proximité du rond-point Genevaux. Je répète, chez Paulette.
Un peu en contrebas, donc.
Donc là, il y aura la capacité d'accueil pour aller visiter l'Agri-Parc par le bas.
Les gens pourront prendre le tram pour s'arrêter à une ou deux stations après le rond-point.
Le tram sera le moyen de circulation le plus évident, mais le cyclisme aussi. On pourra y aller à pied et vraisemblablement à vélo aussi, grâce aux pistes cyclables qui vont être aménagées.
Alors, on a compris l'importance que cet Agri-Parc a pour vous, et on comprend donc ipso facto pour quelles raisons vous avez décidé, outre que le lieu s'y prête, hein, de faire ce premier festival que vous allez nous présenter. Alors, Christine Gass, c'est une première, mais je crois savoir que vous aviez prévu au départ de lancer cette initiative au printemps 2024. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Tout à fait. Donc, première date que nous avions inscrite dans le calendrier, le 27 avril 2024. Malheureusement, les conditions météo n'étant pas au rendez-vous, nous avions eu une alerte. Donc, l'ensemble des parcs de Montpellier ayant été fermés à cette date, nous avons été contraints d'annuler la manifestation et donc d'inscrire le premier rendez-vous réel en 2025, en choisissant une date un peu plus loin dans le calendrier et en croisant les doigts pour que la météo, cette fois, soit favorable à la fin du mois de juin.
Ouais, il pleut, on peut penser qu'il pleut moins au moins fin juin qu'en avril, en effet. Alors, on ne pourra pas donner dans le détail tous les éléments du programme. Les auditeurs disent, pourront le trouver sur la page, le compte Facebook du comité de quartier, comité de quartier La Martelle. Mais quelques précisions. Et d'abord, il y a une proposition de balade. Christine Lal, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces deux balades ?
Alors, nous organisons le festival sur deux jours. Nous commencerons le vendredi soir 27 juin par un apéritif musical. Et effectivement, le samedi matin, nous donnons rendez-vous dans le parc de Font-Colombe où nous organisons deux balades. Une balade interne au parc qui va permettre de découvrir et sa végétation et son histoire locale, donc comme je l'évoquais avec la folie montpelliéraine de Châteaubon. Et deuxième balade qui nous amènera déambuler dans l'Agri-Parc, dans le futur Agri-Parc. Et là, nous passerons sur le chemin du Mazet qu'évoquait Guy tout à l'heure et qui a été remis en état par les équipes de l'ESAT Kennedy qui sont installées aussi sur notre quartier.
Très bien. Alors, il faut s'inscrire. Les autres activités, bien sûr, c'est libre. Là, il faut s'inscrire. Donc, je le rappelle, page Facebook, comité de quartier La Martelle, pour vous inscrire, puisqu'il y a les inscriptions sont limitées à 30 personnes pour que cette déambulation se passe tranquillement. Alors, ensuite, dans les autres points forts du parc, il y a également des ateliers qui sont prévus, quelques détails là, sur ces ateliers.
Alors, avant toute chose, il faut dire que nous avons construit cette programmation avec l'ensemble des acteurs sociaux de notre quartier, puisqu'on peut évoquer notre quartier comme étant le point fort et le pôle du social à Montpellier. Nous avons plusieurs structures, l'IRTS, des DITEP, des ESAT, la Bulle Bleue, etc. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail de tous, mais ce sont tous ces acteurs qui se sont réunis autour d'une table sous notre impulsion pour arriver à construire un programme complet. Donc des ateliers effectivement ouverts plutôt aux enfants, puisque ça peut être des ateliers de dessin, ça peut être l'arbre de vie, etc. Ça, c'est particulièrement les Maisons pour tous, André Chanson et Antoine de Saint-Exupéry que nous avons sur le territoire qui proposent ces animations. Ensuite, nous aurons des ateliers de théâtre avec les acteurs de la Bulle Bleue. Nous sommes vraiment dans une programmation inclusive avec l'ensemble acteurs.
Je vous interromps. La Bulle Bleue, donc, c'est un lieu de spectacle de théâtre de qualité avec comme pour particularité que les comédiens et les comédiennes sont des personnes en situation de handicap. On a fait une émission là-dessus il y a quelques semaines. Et je prolonge en disant que c'est mal connu, ça. Le cœur social, le pôle social de Montpellier, avec un grand nombre de formations, de différentes filières, et ensuite des établissements dédiés à accompagner les personnes plus ou moins en difficulté, c'est là que ça se passe. Et sauf que, bon, au lieu de que ces gens-là soient dans leur bulle, en quelque sorte, c'est un jeu de mots, ou dans leur univers fermé, ils ont travaillé activement avec vous pour préparer ce rendez-vous.
Et aller à la rencontre des habitants du quartier. Notre volonté, ça a été que nous travaillions tous ensemble et qu'en fait, on propose une ouverture à l'ensemble du quartier et des Montpelliérains. Il faut aller au-delà de notre quartier de La Martelle et des Montpelliérains pour que tout le monde puisse se rencontrer autour d'une journée de programmation complète.
Très bien. Alors, il y a également des spectacles, des musiques, un petit mot là aussi sur différents plaisirs qui attendent les visiteurs.
Des musiques de différents groupes. Encore une fois, ce sont des gens du quartier. Donc, soit des membres du comité du quartier qui, pendant leur loisir, œuvrent dans des groupes de musique, comme Choppers, comme le groupe de Bossa Nova. C'est un membre du comité du quartier qui propose de la musique plutôt jazz. Ensuite, nous avons Monzabazarland. C'est un groupe de musique de Montbazin et qui est à l'initiative du directeur de la maison d'accueil spécialisée qui est à l'entrée du parc de Font-Colombe. Voilà, donc tous les gens se sont portés aussi volontaires pour nous proposer une programmation musicale.
Voilà, alors ça donne une petite idée. Il faut aller voir sur place, bien sûr, pour en bénéficier complètement. Alors, les partenaires, on ne va pas le citer, il y a beaucoup de gens autour du social, donc il y a cette confluence autour de ce projet dont il sera intéressant de voir les résultats. Alors, Guy Salager, quel est votre principal argument pour inciter les auditeurs et auditrices à venir. Je rappelle les dates, vendredi 27 et samedi 28 juin, au parc de Font-Colombes, pour ce premier festival agri-party.
La découverte des lieux, la découverte du quartier, on le disait en préambule, c'est un quartier qui est méconnu à Montpellier. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est lui donner une identité. À travers cette opération, on pense atteindre ce but, ne serait-ce qu'en découvrant les lieux qui sont magnifiques de Font-Colombes, le château lui-même, le château Bon, avec son histoire, le parc qui mérite vraiment la découverte, et puis les alentours immédiats, de la nature aux portes de la ville, offertes aux Montpelliérains, avec des moyens d'accès modernes qui vont surgir. Bon, l'idée, c'est ça, c'est d'amener les gens chez nous, de faire en sorte que ce quartier devienne un pôle d'attraction.
Alors, même question, Christine Garde, bon, les gens que vous allez rencontrer, vos relations, vos amis, vos voisins, là, qui paraîtraient un peu hésitants à venir à Font-Colombes ces jours-là, que leur direz-vous ?
Eh bien, de venir découvrir l'ouverture sur le quartier des différents acteurs sociaux, des différentes personnes en situation de handicap qui n'ont qu'une volonté, c'est que l'on se rencontre tous et du vivre ensemble de façon positive. Je me permettrai juste de rajouter que nous nous sommes associés avec les équipes de Mama Sand pour préparer ce festival, équipes qui sont connues des Montpelliérains pour organiser de nombreux festivals dans les différents parcs de Montpellier qui ont un réel savoir-faire dans ce domaine.
Donc des professionnels qui vont épauler les nombreux bénévoles qui sont mobilisés.
Exactement, voilà, et qui vont nous apporter l'offre de restauration, de buvettes, les structures sonores, etc., dont nous avons besoin pour organiser ce festival, puisque nous le faisons à titre tous bénévoles.
Bien évidemment.
Et nous avons besoin un peu de structure à nos côtés.
Alors, pour finir, pour revenir au comité de quartier en général, à ses activités, le comité de quartier publie régulièrement une lettre d'information qui s'appelle Martel en tête. Comment peut-on la recevoir ? Comment peut-on s'inscrire ?
Alors, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse montpellier.lamartel@gmail.com. Nous diffusons cette lettre à une fréquence d'environ tous les deux mois. Ouais. Le prochain numéro va être consacré à la gripartie des Bouisses et vous y retrouverez la programmation détaillée et les différents renseignements concernant notre projet des 27 et 28 juin prochains.
Donc la lettre sera diffusée entre-temps, donc en
la
temps.
La lettre voilà. devrait être diffusée vers la mi-juin.
Très bien. Et alors, autre chose encore, vous l'avez évoqué, vous avez peut-être besoin que les bénévoles qui apportent leur concours, petits ou grands, aux activités, aux initiatives du comité de quartier vous rejoignent, même voir comment peuvent-ils vous le faire savoir.
De la même façon, en envoyant un mail à montpellier.lamartel@gmail.com. Bien sûr que nous souhaitons élargir le comité de quartier à de nouveaux membres. Plus on est nombreux, plus on aura d'idées nouvelles et novatrices pour pouvoir faire revivre notre quartier dans les meilleures conditions.
Très bien. Le message est passé. Je vous remercie l'un et l'autre et je vous souhaite bon succès pour ce rendez-vous là, des 27 et 28 juin.
Merci beaucoup et on compte sur votre présence.
On y sera.
Merci pour votre accueil.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.